Merci beaucoup à tous pour votre patience. Comme vous le voyez, l'organisation quand on commence, bon, c'est la première table ronde. Vous finissez d'essuyer les plâtres avec nous. Et donc, pour cette table ronde qui commence, et je m'en excuse, avec donc plus de 5 minutes de retard, qui va être la fantaisie, une lecture plaisir. Merci. Ça reste quand même un plaisir, même en dépit des toutes petites difficultés. Et donc, dont l'échange de micro. Ah là là, vraiment, la télépathie, là, c'est quand même beau. Ça serait quand même pratique. Mais donc, je vous remercie pour votre patience. Et donc, pour parler de fantaisie, nous avons le plaisir d'avoir Christine Cachor, qui a publié chez Orbit la trilogie des Gresslings, donc Gressling, Rouge et Bitter Blue, dont elle va nous parler. Nous avons, voilà, Kay Meyer, un auteur allemand qui a publié à la Talente la trilogie du Peuple des Nuées, dont nous avons d'autres livres ici, mais pas la trilogie des Nuées, voilà, mais qui sont très bien aussi. Mais nous parlerons plutôt de la trilogie des Nuées, dont le dernier volume, la conclusion, vient de sortir à la Talente. Charlotte Bousquet, que vous connaissez sans doute tous, qui a écrit de nombreux romans, dont la trilogie de l'archipel des Numinés. Premier volume, Arachnae, vient de ressortir en format poche chez Mnemos, où il était paru originellement avec une couverture magnifique, comme d'ailleurs les couvertures des deux autres ensuite chez Mnemos en grand format étaient superbes, et qui vont ressortir, je crois que le deuxième sort à la rentrée.
Hein. Au mois d'août, je crois, voilà. Il est prévu au mois d'août, et le troisième novembre, je crois.
Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, enfin, le siège vide est pour Pierre Pevel, qui est quelque part sur la route, qui vient d'arriver, et donc qui va nous rejoindre, il s'en excuse, en cours de route. Mais bon, voilà, Pierre Pevel, montré par Christine Cachor, voilà. qui trouve que ce sont des gros volumes. Et donc, Pierre Pevel, dont le premier volume de sa nouvelle série du Haut Royaume, qui sera, selon ses propres termes, hein, une boucoupologie. Donc, il y aura beaucoup de volumes. Et donc, le premier tome, Le Chevalier, vient de sortir. Et Pierre Pevel nous rejoindra en cours de route. Et peut-être, alors, pour lancer cette table ronde tout de suite, parce que au début, la fantaisie, donc, c'est pour nous lecteurs un plaisir, mais je suppose que c'est aussi pour nos auteurs un plaisir d'écriture. Alors prenons d'abord l'avis des auteurs. Mesdames, messieurs, pourquoi choisissez-vous dans certains cas d'écrire plutôt de la fantaisie ?
Should I start? The first thing I have to say is that when you said fantasy is pleasurable to write, I started to laugh because I don't know why I do it. I find it very difficult to write.
Oui, donc finalement, quand j'ai entendu la question comme quoi la fantasy pouvait être un plaisir à écrire, j'ai commencé d'abord par un petit peu éclater de rire, parce que moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi je continue d'en écrire, mais je trouve que c'est finalement un travail bigrement difficile à faire.
But to explain why I do write fantasy, my books are very character-driven, and they begin with the characters that I find myself daydreaming about.
Et donc, pour expliquer pourquoi j'ai commencé à écrire de la fantasy, en fait, la fantasy que j'écris, c'est une fantasy qui est souvent axée sur des personnages. Il y a souvent un personnage central, et ces personnages, je commence d'abord par les imaginer. Ils sont dans ma tête, et ensuite, il faut que je les écrive.
And in the case of my fantasy books, what happened is that the characters who were talking in my head to each other and having arguments and who intrigued me, had impossible powers. So I knew, oh, okay, I guess I'm writing a fantasy.
Et donc, en fait, pourquoi de la fantasy ? Ben, ces personnages-là, quand ils me sont apparus, quand ils sont apparus dans ma tête, ils ont commencé à se parler, ils ont commencé à exister, à échanger. Et je me suis rendu compte que ces personnages-là avaient des pouvoirs incroyables. Et je me suis dit, ah bon, ben alors la chose que je vais écrire, ça sera de la fantasy.
Actually, I usually start with the plot, not with characters. So my style of working is probably quite different from yours. Most ideas I get are just fantasy or fantastical ideas or very dark ideas for horror stories. I don't get ideas for realistic novels.
Alors en général, moi personnellement, c'est d'abord l'histoire qui me vient et non pas les personnages. Donc je dois avoir une façon de travailler assez différente de Christine. Et en général, les idées qui me viennent, ce sont des idées de fantasy assez sombres, voire de l'horreur. J'ai jamais d'idées qui me viennent pour des livres réalistes.
But when I found the central fantastic ideas for my book, I try to fill the gaps with more realistic elements. Readers can feel comfortable.
Donc en fait, quand je commence avec une idée centrale, il y a quand même des trous qui restent autour, et ces trous-là, j'essaye de les remplir avec des éléments suffisamment réalistes pour que les lecteurs soient à l'aise.
Charlotte Bousquet, qui a aussi écrit, il faut le préciser, des thrillers écologiques, entre autres.
Oui, des romans historiques et tout ça. En fait, je dirais que la fantasy est pour moi un genre qui peut contenir tous les autres. Donc en fait, dans un roman de fantasy, quel que soit, on va dire, ce qu'on peut rajouter de light, de dark, de ce que vous voulez, d'urban, ce qui est absolument génial, c'est que vous pouvez y mettre du théâtre, vous pouvez y mettre du thriller, vous pouvez y mettre du polar, vous pouvez y mettre de la romance, vous pouvez tout mettre dans la fantasy. Et ce qui fait que, en fait, quelque part, c'est à la fois extrêmement contraignant parce que vous créez un monde. Si je passe à l'archipel de Numiné, c'est un monde de dark fantasy renaissance, mais en même temps, donc qui exige une construction, des divinités, ce genre de choses. Mais en même temps, on peut tout y mettre. On peut tout y mettre, et c'est ça qui fait que c'est un grand, grand, grand plaisir d'écriture. Et je pense que ce n'est pas Pierre Pével qui vient d'arriver qui va me contredire, hein, Pierre. Hein, que c'est un grand plaisir d'écrire de la fantasy.
Et puis en plus, c'est très très bien payé, donc n'hésitez pas.
Voilà. Bon, alors en fait, pourquoi on écrit de la fantasy ? Parce qu'on est tous milliardaires. Merci Pierre, tu as dévoilé le secret. Voilà. Donc essentiellement, vraiment une grande grande richesse, c'est des grandes possibilités de création et de variation.
D'abord, excusez-moi d'être en retard. Enfin, mon train arrivant à 14h, je ne pouvais pas être là à 14h aussi. J'aurais demandé de venir me chercher en DeLorean, mais ça n'a pas été possible. Je ne sais même pas de quoi on parle, en fait.
Pierre, nous par... Alors, le thème de la table ronde, c'est la fantasy, une lecture plaisir. Et nous avons commencé en demandant à nos auteurs pourquoi ils avaient tous choisi d'écrire de la fantasy. Certains d'entre eux, comme Kay Meyer et Charlotte Bousquet, écrivant aussi dans d'autres littératures. Bon, quant à vous, nous venons de comprendre tout de suite quelle était votre motivation principale.
Financière.
Mais donc, voilà. Mais si vous voulez peut-être développer un petit peu par rapport à ça.
Alors, tout d'abord, oui, j'ai écrit qu'un livre qui ne relève pas de la fantasy, qui était plus ou moins un steampunk. À part ça, oui, je fais que de la fantasy. Ça ne relève pas vraiment d'un choix, en fait. Mon imaginaire est forgé comme ça. Je pense que... Il y a une explication qui est générationnelle. J'ai 44 ans, j'avais 11 ans quand La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir est sorti au cinéma. Je l'ai pris pleine face, ça m'a marqué durablement. Et ensuite, adolescent, j'ai eu deux chances. D'une part, ma génération a vu arriver des films d'exception au cinéma. Le début de la série des Indiana Jones, Excalibur de Boorman, le Conan de Milius, etc. Et d'autres bien moins bons à l'époque, parce qu'il y a eu une mode de films de fantasy et il y a eu quelques merdouilles italiennes qui étaient croquignolées. Darl Invincible, l'épée sauvage. C'est l'épée comme l'épée, hein, parce que. Mais bref. Et puis, en même temps, au niveau éditorial, il y a eu des collections qui apparaissaient à cette époque et plein de classiques de fantasy qui ont été publiés essentiellement grâce à Guamard avec Press Pocket à l'époque, mais donc Moorcock, Liber, Howard sont devenus vraiment très très disponibles, ce qui n'était pas le cas avant. Bref, tout ça a fait que ça a forgé mon imaginaire, ça m'a vraiment nourri étant adolescent. Je n'ai lu guère que de la fantasy jusqu'à 20 ou 25 ans, j'en ai lu vraiment beaucoup. J'ai un peu arrêté maintenant, mais ça m'a vraiment forgé et maintenant mon imaginaire est fait comme ça. J'ai l'impression que c'est un pli qui est pris et puis que je ne reviendrai pas dessus.
Merci beaucoup. Alors maintenant, passons peut-être à l'aspect donc, qui pour nous, lecteurs, est le plus important, donc ce plaisir pour nous de lire de la fantasy. Et il me semble qu'un premier axe de ce plaisir de lecture, c'est de découvrir les univers, les mondes que vous créez, complètement différents d'une autre, et qui sont chacun très différents. Alors peut-être dans l'ordre, à nouveau, repartir comme ça et laisser à Pierre Pevel le temps de se défaire un petit peu s'il le souhaite, parce que là on l'a vraiment pris dès l'arrivée. Donc peut-être première société, c'est celle que décrit Christine Cachor dans sa trilogie, cette société des sept royaumes, chacun différent, avec qui sont habités par des humains normaux et puis par les Gresslings, ces humains qui se découvrent arrivés à un certain âge, un don qui est plus ou moins utile. Et en même temps, leur couleur d'yeux change et ils ont les yeux verrons. Donc peut-être si vous pouvez nous expliciter un petit peu cet univers.
Yes, certainly. It's a kind of a vaguely medieval world with differences. There's no religion in this world, which is the biggest difference, I would say.
Alors en fait, le monde que j'ai construit, c'est une espèce de monde un peu simili-médiéval, mais il n'y a pas la religion dans ce monde-là, donc c'est quand même une grosse différence par rapport au monde médiéval.
And the way graces work is that basically any human talent, cooking or caring for horses or fighting, being extremely perceptive, any human talent, if you take it to an extreme, it can be a grace. So I have people who are graced killers or fighters and are just extraordinary fighters, people who have a grace of mind reading, or people with a useless grace like talking backwards or, I don't know, holding your breath underwater, but maybe you don't live where there are any lakes or something like that.
Alors en fait, les Gresslings, ils ont un don qui apparaît, mais alors ce don, c'est en fait n'importe quelle caractéristique humaine qui est prise et qui est poussée à son extrême. Donc le don, ça peut être cuisiner. Alors là, on va avoir quelqu'un qui va être un cuisinier absolument extraordinaire. Ça peut être s'occuper des chevaux. Ça peut être des choses totalement inutiles, comme parler à l'envers ou retenir sa respiration sous l'eau, alors qu'on n'habite pas au bord de l'eau. Mais en même temps, certains Gresslings vont avoir des dons qui vont être extrêmement utiles et utilisés dans ce monde-là. Par exemple, un Gressling qui sait se battre va devenir un combattant absolument extraordinaire, à la limite doté presque de super pouvoirs. Donc voilà, le Gressling, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une qualité humaine qui est hyper développée.
And then in my second book in the same universe, I grew my world a little bit. So if you cross the mountains, it's another world called the Dells, where there's only one Gressling who gets there in a strange way.
Okay. Dans le tome 2 en fait rouge, donc là on est dans un autre monde, on a franchi la montagne et on se retrouve dans le royaume de Dells, qui est un autre royaume où là il n'y a qu'un seul Gressling qui est arrivé là d'une façon un petit peu étrange et qui a un don très très particulier.
But in this world there are creatures called monsters which are shaped like regular animals, so horses, birds, mountain lions, but they're brilliantly, beautifully colored,
and they have the ability to mesmerize you with their minds. And some of them are predators, and they'll kind of mesmerize you with their beauty and with their mental power. And then when you're standing there all like, oh, so beautiful, they attack.
Et donc, dans ce monde-là, il y a des créatures très particulières qui sont les monstres. En fait, les monstres, ce sont comme des animaux ordinaires. Donc, ça peut être des chevaux, des oiseaux, des pumas, etc. Mais ils ont deux caractéristiques. D'abord, ils ont des couleurs brillantes absolument extraordinaires, des jaunes, des verts, des roses, etc. Et ils ont la capacité de manipuler l'esprit des hommes. Donc, ils arrivent là, ils manipulent votre esprit, donc vous êtes en admiration. Certains sont des prédateurs. Et donc, quand vous êtes comme ça, capturé par leur regard, paf, ils attaquent et ils vous tuent.
And the last thing I'll say is that in Graceling, my first book, the main character is a Graceling who's a young woman who has the grace of killing, and she's struggling because she does not like that grace. And in my second book, Fire is a human-shaped monster, so she's dealing with her own power to mesmerize and to control minds. And in my third book, Bitter Blue is just a regular person, which was really nice to write about. She's surrounded by extraordinary people, but she's a queen, so she's not completely a regular person, but she has no special powers.
Alors, en fait, dans le premier ouvrage Graceling, donc l'héroïne est une Graceling donc qui a le talent de combattre, et donc elle va, elle a la caractéristique de ne pas aimer tuer, et malheureusement on fait d'elle une tueuse, et donc elle se bat avec ça pendant tout le livre. Dans le tome 2, donc Rouge est elle au contraire un monstre. C'est une humaine qui est pour partie monstre, donc qui va se battre contre cette capacité à finalement émerveiller les gens et manipuler les gens, puisqu'elle, elle veut faire le bien. Et par contre, dans le tome 3, Bitter Blue, c'est une humaine totalement ordinaire, enfin pas totalement puisqu'elle est reine de son royaume, mais elle est entourée de créatures qui ont des dons spéciaux, et donc il va falloir aussi qu'elle fasse avec ça.
Quant à vous, Kay Meyer, dans votre trilogie du Peuple des Nuées, vous nous avez emmené dans une Chine quasiment mythique, la Chine ancienne telle qu'on se l'imagine, mais qui en même temps a ces gens qui vivent dans les nuages, le Peuple des Nuées, qui donne son nom à la trilogie. Donc peut-être si vous pouvez développer un petit peu plus, pourquoi cette attirance pour ce décor asiatique?
I have never invented a complete world for one of my books, so I always take historical backgrounds like ancient China in the Cloud People trilogy, or I have used the Caribbean for a pirate trilogy, actually before the Johnny Depp movies, and several other historical backgrounds. But I think I was attracted to China. Maybe I was attracted to China because I saw so many martial arts movies in the 80s and 90s, Chinese fantasy movies, you know, all those kung fu movies, and I always wanted to use that for a fantasy novel, because I think it's not actually I don't any other fantasy novel that ever used that background in Europe. Maybe in America, I'm not sure, but I don't think there are any in Europe.
Alors en fait, j'ai jamais vraiment inventé un monde complet pour mes romans. Je me sers toujours d'un aspect historique réel. Donc là, par exemple, je me sers de la Chine, effectivement, du passé. J'ai aussi écrit un roman où je parlais de pirates dans les Caraïbes, mais c'était avant le film de Johnny Depp. Effectivement, moi j'avais cet attrait pour la Chine parce que j'ai beaucoup vu des films d'arts martiaux dans les années 80, des films de kung-fu, et je voulais vraiment me servir de ça dans un roman de fantasy, parce que je pense que ça n'a jamais été fait, en tout cas au niveau européen, d'écrire sur la Chine pour un roman de fantasy.
And when I'm sure I want to use a certain or yes a certain background, I start to add certain fantastical elements like people living on clouds, or in the Pirates trilogy, people walking over water. So it's not Yeah, it's not a historical novel at all. It's very different, but the background usually is historical.
Alors en fait, une fois que je suis sûre de l'environnement dont je veux me servir, je vais rajouter des éléments fantastiques, comme par exemple donc ce peuple qui vit dans les nuages, ou pour le roman sur les Caraïbes, c'était des gens qui étaient capables de marcher sur l'eau. Donc au final, ce n'est pas du tout des romans historiques, hein, on est bien d'accord, mais je me sers quand même d'un cadre existant déjà dans la réalité.
Quant à vous, Charlotte Bousquet, Dans votre trilogie, vous mettez en scène. Alors, d'une part, vous allez dans une époque qui est historique, qui se ressemble un petit peu à la Renaissance, ce qui est déjà très inhabituel en général dans la fantasy, où c'est plutôt souvent une sorte de Moyen-Âge. Donc, vous nous emmenez dans des sortes de cités de la Renaissance et dans un univers qui est particulièrement, comment dirais-je, vénéneux quelque part, avec ces cités, parce que vous nous faites visiter trois villes, une dans chaque roman, donc Arachné dans le premier, ensuite Citerier dans le second, et puis Matricia dans le troisième, et ce sont des villes en complète déliquescence, décadence, etc., aussi bien quelque part au physique qu'au moral.
Donc en fait, effectivement, je suis pas une grande fan du Moyen-Âge. En revanche, j'aime beaucoup la Renaissance, j'aime beaucoup le XVIIe et XVIIIe siècle, donc les romans de Pierre. Mais donc voilà, mais toute cette période de Renaissance italienne, tout ce qui se passe autour de l'art, tout ce qui est lié aux Médicis, effectivement, m'a beaucoup inspirée, ainsi que le livre de quelqu'un qui n'est pas trop cité, qui est Guy Gabriel Ketigan. Si vous avez lu, c'est absolument génial, je recommande. Et voilà. Et mon idée, quand j'ai travaillé donc sur ce cycle, c'était, en tout cas pour Arachnae, de faire d'Arachnae un personnage. Donc un personnage, donc Arachnae, effectivement, donc type d'araignée, donc qui est une ville qui dévore les âmes, qui corrompt les gens, qui en même temps est l'âme du royaume, donc c'est un peu difficile de combattre toute la corruption qui apparaît. Dans Citeriae, donc la ville de Crebella, elle, c'est un peu, donc c'est effectivement clairement une référence à Venise, mais une Venise en train réellement de sombrer, on va dire, là encore corps et âme, mais Crebella apparaît un peu moins comme un personnage. C'est un roman qui se passe plus à l'échelle d'un quartier. Et donc le dernier, Matricia, se passe, alors là, ma grande honte, j'ai oublié le nom de la ville, mais effectivement dans un royaume donc, qui pourrait être lié peut-être à un nord d'Italie imaginaire. Et là, c'est plus à l'échelle d'une famille. Donc la ville est déjà complètement en ruine, rongée par la peste. Et vous avez un duel entre deux personnages qui sont les deux derniers rejetons d'une lignée corrompue, incestueuse, de criminels, et qui finalement aussi représentent, le dernier acte d'une lutte entre deux entités. Donc c'est effectivement quelque chose, oui, c'est assez sombre, en fait, vous avez raison, c'est pas... mais voilà, c'est aussi des histoires de complots et ce genre de choses, et je trouvais que la Renaissance s'y prête bien.
On y reviendra ensuite, parce que vous avez un univers que j'avais trouvé absolument hallucinant et tout à fait passionnant. Et c'est vrai, cet univers décadent était passionnant. Mais on va y revenir après. J'ai d'autres questions là-dessus.
Bon Pierre, je te laisse le micro.
Voilà. Pierre, alors vous avez un peu fait un chemin inverse, parce qu'effectivement, vous aviez commencé... Moi, je vous avais découvert dans la fantasy avec la trilogie de Wielstadt, donc on était là aussi au moment des guerres en Allemagne, vers la fin de la Renaissance. Ensuite, avec la trilogie des Lames du Cardinal, vous nous aviez emmené dans la France de Louis XIII. Et là, avec le Chevalier, le premier tome. Alors j'ai dit tout à l'heure que votre expression pour qualifier cette série, ça serait une beaucoupologie.
Mais c'est une beaucoulogie, oui. Il va y avoir beaucoup de tomes.
Voilà. Donc il y aura beaucoup de tomes. Et là, vous revenez à un monde de fantasy qui est quelque part la fantasy classique telle qu'on s'y attend, donc une sorte de monde un peu moyenâgeux, avec ce haut royaume qui est qui est en lutte contre l'Irgard depuis un siècle. Et donc là aussi, vous mettez en scène un univers complètement différent.
Bah, j'avais en fait technologiquement c'est plutôt la Renaissance parce qu'ils ont déjà de la poudre.
C'est la fin du Moyen Âge.
C'est non, dans mon idée c'était vraiment une sorte de Renaissance. Ils ont la poudre et puis je jouais beaucoup à Assassin's Creed quand je l'écrivais, donc voilà. Et puis l'avantage d'avoir une technologie avec de la poudre, c'est qu'il y a des trucs qui font boum. C'est quand même l'avantage. Mais il n'empêche que oui, c'est vrai. Je suis revenu en tout cas à un univers imaginaire. Que j'avais commencé à aborder avec mes tout premiers romans, mais ensuite ceux qui m'ont rendu célèbre, à savoir la trilogie de Willstatt et puis les Lames du Cardinal, eux se passaient dans un contexte historique donné que j'avais légèrement détourné. En fait, j'avais envie de ça depuis longtemps parce que j'avais vraiment envie, le projet de Haut Royaume, donc la série, c'est de faire une sorte de saga historique. À ceci près que la période historique et l'univers est inventé. Mais sinon, c'est de vraiment respecter les codes de séries qui, moi, m'ont beaucoup plu et qui n'étaient pas vraiment imaginaires, mais Les Rois Maudits ou Fortune de France, enfin des grandes séries romanesques historiques françaises qui m'ont beaucoup plu et que je voulais retranscrire ça. Quoi. Je voulais retrouver cet esprit avec la grande histoire et des destins particuliers qui sont ceux de personnages qui évoluent au sein de cette grande histoire. Les Américains sont très très forts pour ça aussi. Ils en font des très très bonnes. Nord et Sud, par exemple, j'aime beaucoup. Ou Autant on emporte le vent. Enfin, je voulais avoir ça, quoi. La grande histoire et les destins particuliers. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vraiment me faire plaisir et je vais raconter, inventer aussi bien la grande histoire que les petites. Et c'est pour ça que j'ai développé Haut Royaume. En me désintéressant assez finalement de l'aspect purement technologique ou social ou culturel. L'idée, c'est vraiment de. C'est l'histoire qui compte le plus, celle avec un grand H et toutes les autres avec petit H mais S à la fin.
Et en même temps, vous décrivez fort bien un certain nombre de paysages du Haut-Royaume. Il y a entre autres cette description de la citadelle perdue dans laquelle s'est réfugié le vieux roi. La citadelle qui avait vu le combat ultime, vous lancez dans des descriptions qui sont absolument magnifiques pour nous comme plaisir de lecteur.
En fait, d'abord merci, mais l'idée c'est de décrire un monde imaginaire, mais de le traiter avec exactement le même sérieux que le monde réel. C'est-à-dire que je rigole en quelque sorte, je prends pas mon univers imaginaire avec plus de légèreté que j'ai pris l'univers historique. De certaines manières, j'ai envie d'avoir la même rigueur de documentation dans l'un que dans l'autre. La différence étant que lorsque je décrivais la France de Louis XIII, ma documentation était historique, et là, ma documentation, je l'invente. Mais finalement, je me retrouve avec des fiches parlant des royaumes, des villes, des dynasties. Au final, quand j'en suis à écrire, j'ai vraiment le même matériau que sur un roman pseudo-historique. La différence étant que j'ai juste inventé mon matériau. Mais c'est vraiment la même démarche ensuite, le même sérieux. Mon univers, dans ma tête, pour moi, l'univers de Haut-Royaume existe autant, et avec autant de cohérence, j'espère autant de cohérence, que l'univers de la France de Louis XIII ou l'Allemagne de la guerre de 30 ans.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent... au début des romans de fantasy que nous achetons, il y a souvent une carte géographique qui permet au lecteur de pouvoir suivre les pérégrinations des personnages à l'intérieur. Alors, il me semble aussi qu'un autre axe du plaisir du lecteur dans la fantasy, c'est de découvrir. Alors là, on a parlé des paysages plutôt, mais il y a aussi donc cet aspect de sociétés qui sont complètement différentes, des sociétés de culture qui sont complètement différentes. Et alors, je vais refaire le tour, je crois, dans l'ordre. Alors, je vais peut-être surprendre Christine Cachor. Mais en lisant Bitter Blue, quelque part, je me suis fait la réflexion que c'était une sorte de semi-utopie, parce que il y a d'une part des personnages extrêmement désagréables, mais en même temps, ce qui m'a paru la semi-utopie, c'est ce conseil qui existe, qui réunit des gens de toutes les classes de la société, de tous les royaumes, qui sont unis, que ce soit la noblesse ou les domestiques, le petit peuple, etc. Ils sont tous unis à égalité pour décider tel roi opprime son peuple, et donc nous allons organiser une révolution et renverser ce roi. Et ça, donc, ça me paraît très utopique, quelque part. Une société presque idéale.
It's so funny to hear it described as utopia because when I'm writing, I'm more involved in the problems of the society. The dictator who has the grace of telling lies that people believe and then using that ability to make you believe anything for enormous abuses of children, of adults, of, I mean, he's basically a psychopath, a sociopath.
Donc, c'est curieux, effectivement, d'entendre le terme d'utopie parce que, finalement, là, le fondement de ce Haut Conseil, c'est le règne d'un homme qui avait donc comme don, donc c'est un Grayslinger, qui avait comme don de manipuler l'esprit humain et d'être capable de faire croire à n'importe quel mensonge. Et ce roi a donc manipulé un pays entier et abusé des gens, des enfants, des adultes. Et c'est donc là-dessus que s'est construit finalement ce royaume.
But you're right. I mean, there is this... I can see it could be utopian sort of concept of the council, which is kind of a grassroots justice organization made up of some Grayslings and some regular people, very powerful people, some nobles, some commoners, that does have ways of communicating and undermining those in power in a really just kind of fun, you know, it's fun to poke holes in the bubbles of the evil people, and that's what the council gets to do. And they're very mischievous as well.
Et donc c'est vrai que d'un certain côté, ce haut conseil peut paraître un peu utopique puisqu'il réunit effectivement à la fois des Grayslings et des humains ordinaires, des nobles et des non-nobles, des riches et des pauvres. Et ils se sont donnés pour mission effectivement de faire le bien et de corriger les erreurs. Et ils vont notamment miner de l'intérieur ce royaume où il y a ce méchant roi qui a régné. Et quelque part, c'était assez amusant d'écrire ça avec ces gens qui allaient un petit peu crever les espèces de bulles confortables de ces méchants. Et en même temps, ils sont... ils sont espiègles, ils sont retors, en fait, dans leur façon de faire et de mettre des bâtons dans les roues du pouvoir.
And the last thing I'll say about society and rule is that kind of a funny thing happened as I was writing these books, which is that when I was writing the first one, I had no idea what I was doing. I was writing my first fantasy. I was so overwhelmed. I just kind of set it down in a basic fantasy kingdom. And then later, in later books, started to think, well, do I really want my books to be, you know, saying, yes, monarchy is a good idea? So gradually in this world, I have little revolutions breaking out in this kingdom and that kingdom. And so now, rather than seven kingdoms, it's actually six kingdoms and one democracy. And, you know, things are slowly changing. And it's fun to play with that. I'm not sure where it's going to go, but...
Alors, ce qui est amusant, c'est que quand j'ai écrit Grayslinger, le premier roman, c'était mon premier roman de fantasy. Donc, j'étais un peu débordée. Il y avait beaucoup de choses à penser. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Donc, j'ai écrit. Et puis, ça s'est situé dans le petit royaume bien classique de la fantasy, etc. Et au fur et à mesure de l'écriture des livres suivants, je me suis rendu compte que j'évoluais là-dessus. Je me suis posé la question, est-ce que finalement, j'ai envie de présenter la royauté comme étant le système politique ultime, etc. Et je me suis rendu compte que non. Et du coup, dans le tome 2, on commence à avoir des royaumes où on a six royautés, mais une où il commence à y avoir une révolution là, il commence à y avoir des remous ici et là. Et puis finalement, pour arriver à six royautés et une démocratie en marche, et où ce monde-là, petit à petit, les sociétés évoluent et les systèmes politiques évoluent également.
Pierre Pevel, je vous voyais opiner du chef pendant que Christine Cachor parlait. Vous avez un commentaire peut-être à faire?
En fait, je me disais que j'écoutais et je me disais l'intérêt. Je crois qu'en tant qu'auteur, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne nos univers au sérieux, qu'ils soient historiques ou inventés. Je crois que maintenant, la fantasy a évolué de telle manière que l'univers ne peut plus être un prétexte. Avant, on sent bien quand on lit même des assez bons livres de fantasy, mais que telle cité est là parce que ça arrange l'auteur, ou que tel royaume tout d'un coup apparaît parce que ça arrange l'intrigue. À mon avis, c'est un peu dépassé comme méthode de travailler. Ce qu'on admire beaucoup, par exemple, chez Tolkien, on dit toujours son univers est pas fascinant, il est très cohérent. Mais en fait, bon, bien sûr, il y a le talent fabuleux de Tolkien, mais il y a surtout le fait qu'il prend son univers au sérieux. L'univers, il est là. Il est là avant les histoires qu'il va raconter, qui se déroulent dans cet univers. Et je pense que c'est un bon moyen de procéder pour créer des univers cohérents et intéressants. Et du coup, on se pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est intéressant de se dire, mais bon, si je décris tel univers et que je montre que des royaumes qui fonctionnent, forcément, il y a un point de vue politique. C'est de dire la royauté, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et c'est intéressant de se poser des questions et de se dire « Ah ben, peut-être pas, est-ce que je ne peux pas explorer d'autres pistes ?» et montrer que non, en fait. Et du coup, l'univers va évoluer, il va vivre et il devient un élément d'intérêt en lui-même, qui est le cadre des aventures que l'on raconte, qui n'est pas le prétexte, qui n'est pas une toile peinte sur laquelle se projetteraient les intrigues.
Merci. Kai Meyer, êtes-vous d'accord avec cela, vous qui... Dans la trilogie du Peuple des Nuées, avait montré les interactions en fait entre différentes sociétés et y compris dans le troisième, vous introduisez aussi cette société qui m'a beaucoup plu, de ces marchands secrets qui se déplacent dans des vaisseaux des cieux, et puis bien entendu interviennent enfin ce peuple de dragons qui s'était retiré dans le premier volume, source en partie des problèmes qui se passent et donc qui réapparaissent à la fin. La question, c'est est-ce qu'il était d'accord avec Pierre et comment il fait interagir
Absolutely.
Ces sociétés entre elles.
Actually, I had to deal with two very different societies in my Cloud People trilogy. One is the of course, the ancient Chinese society at the 18th century, I think. And the other one is consists of the people who live on that cloud that comes actually from Italy. It drifts all over the world. It's a solid cloud. And there are a few hundred people living on that cloud, and they crash in China. And they have to find a way to get their cloud back in up in the air, and they think they probably need the breath of dragons to do this. So absolutely. That's what I thought. That's actually a logical explanation in the book.
Alors effectivement, je parle de deux sociétés différentes dans mes romans. Alors tout d'abord, il y a la société chinoise antique, donc du XVIIIe siècle. Et après, il y a ce peuple qui vit sur des nuages. Alors à l'origine, en fait, ils viennent d'Italie, mais c'est un nuage qui se déplace. Et il y a des centaines de personnes qui vivent dessus et ils s'écrasent en Chine. Et en fait, ils veulent trouver un moyen de faire redécoller le nuage, si je puis me permettre. Et pour ce faire, ils pensent qu'ils ont besoin du souffle des dragons. Là-dessus, Christine rajoute, oui, ça paraît logique. Le souffle des dragons pour faire repartir le nuage, oui.
And the reason why I choose Italian people to come to China is it's very simple, because I didn't know anything about China. So I had to write the whole book from an European perspective. Okay. So I needed people from somewhere else to come to China, so I could explain to them what I had actually researched about China. So that was actually the main reason, because the cloud people could come from everywhere. They could come from, you know, Japan. But I wanted a European perspective.
Alors en fait, sorry. En fait, la raison pour laquelle je voulais un peuple italien sur mon nuage, c'est parce que je ne connais pas du tout la Chine. Et du coup, il me fallait dans mon roman une perspective européenne, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit des étrangers qui débarquent en Chine pour que je puisse expliquer les recherches que j'avais faites par rapport à la Chine. Et donc, le peuple dénué aurait pu venir de n'importe où, mais il me fallait un peuple européen pour qu'il puisse avoir un point de vue européen sur la Chine.
Je vais profiter et faire une petite parenthèse pour exprimer si nécessaire à quel point la fantasy est un genre merveilleux. Ça permet de dire des phrases, la raison pour laquelle j'ai mis des Italiens sur mon nuage. C'est extraordinaire.
Christine.
First of all, I'm sorry, I get very excited and I forget that you have to, you know... can I just ask, is there just the one cloud or are there other... Okay, just the one.
It's actually based on machines that Da Vinci has built. because, he was quite a crazy inventor and he tried to invent all kinds of stuff and usually they didn't work. But I just created some kind of machine for him that made... That managed to make cloud solid. So that's the reason.
Donc la question était de savoir effectivement s'il y a un seul nuage ou s'il y en a plusieurs. Enfin donc Christine s'interrogeait sur la nature des nuages en question.
Et donc en fait la réponse c'est que il n'y en a qu'un et que ça a été inspiré en fait par une machine créée par Da Vinci parce qu'il a créé beaucoup de machines qui généralement ne marchaient pas, mais bon, voilà. Et il avait essayé de créer une machine justement qui solidifiait les nuages. Donc c'est de là que vient l'idée.
Alors, en revanche, dans l'univers de Charles Bousquet, on quitte les nuages et les cieux et on arrive plutôt quelque part dans les bas-fonds d'une société qui est extrêmement à la fois violente, où le sexe tient un très grand rôle.
Enfin, je me suis rendu compte en vous écoutant tous que vous construisez des mondes pour les faire évoluer et moi, je construis des mondes pour les détruire. Et non, mais c'est absolument horrible. Dans Arachnae, on a une société, effectivement, cette ville qui est complètement déliquescente, où en gros, vous rencontrez des pédophiles à chaque coin de rue, mais c'est pas grave. Mais vous avez une principauté, vous avez un Alessio qui essaye désespérément de faire tenir tout ça. Vous avez une trinité de prêtresses qui finalement ont quand même une certaine importance puisque c'est une religion matriarcale. Et plus ça va dans cet univers, plus on quitte justement la dimension religieuse pour à la fin, quelque part, la religion n'a plus aucune importance. Les royaumes n'ont plus aucune importance. La seule chose qui compte finalement, ce sont les humains. Avec des humains, c'est vrai que ce qu'il en reste n'est pas très reluisant, mais voilà, je ne sais plus ce que c'était que la question. Mais c'est vrai que ça m'a fait tellement rire le côté les nuages italiens et moi c'est crunch, il n'y a plus rien. Mais voilà.
C'est la société.
C'est cette société, c'est
très noire.
Ouais, c'est à échelle humaine. C'est vraiment à échelle humaine.
Et vous, Pierre Pevel, vous mettez en scène avec le royaume, quelque part, une société qui, après avoir été en guerre pendant près d'un siècle, là, est une société qui est devenue dysfonctionnelle avec le roi qui s'est exilé, la reine qui intrigue. Et finalement, le problème, quelque part, il me semble que le problème que vous posez, la question que vous posez pour cette société dans ce premier volume, c'est finalement... Est-ce qu'on peut essayer de faire la paix à n'importe quel prix? Est-ce que la paix vaut n'importe quel prix?
Ah ouais. Ouais, oui, peut-être, ouais. Ouais, c'est pas bête.
Puisque en fait, tout le débat dans ce premier volume, c'est de savoir est-ce qu'on peut donner à un royaume qui est une dictature épouvantable, lui donner une cité qu'il demande et qu'on en avait conquis de haute lutte avant, qu'on en avait libéré de haute lutte, est-ce qu'on peut la rendre, sacrifier les gens qui habitent dans cette cité pour acheter la paix?
Ouais.
En fait, c'est historique. Je pense à la poignée de main de Montoire.
ça, oui, bien sûr. L'idée, en fait, je crois que le thème, un des thèmes du bouquin, c'est la raison d'État. Et c'est la raison d'État aussi bien au niveau individuel, à savoir est-ce qu'on peut tout demander à un homme particulièrement fidèle ou particulièrement valeureux au nom de la raison d'État ? Est-ce qu'on peut tout demander éventuellement à un groupe d'hommes, à une compagnie de soldats ou, et puis, est-ce qu'on peut tout faire à l'échelle du royaume ? Est-ce qu'en effet, on peut sacrifier, vendre une cité pour préserver tout le reste ? L'idée, c'est la raison d'État. Et je dois reconnaître que ça, c'est un truc qui me travaille quand même vraiment moi personnellement depuis longtemps. Ça traverse la trilogie des Lames du Cardinal également. Et même d'une certaine manière, Willstatt, puisque bon, le héros ne sert pas un État, mais il sert une cause. Et est-ce qu'on peut tout faire, quoi ? Est-ce que les pires saloperies peuvent être légitimées par la pureté de la cause, quoi ? Moi, je trouve que ça devient vite dangereux quand on commence à penser comme ça.
Et puis aussi, est-ce que jusqu'à quel point on peut oblitérer sa raison en se justifiant par « c'est pas de ma faute, c'est l'État qui demande ». Je trouve que tes bouquins posent aussi cette question.
Toujours la raison d'État, en essayant de. Souvent, la personne, comment dire, l'archétype qu'on représente, c'est l'homme qui est sacrifié par l'État, que sa loyauté l'a poussé dans des retranchements moraux douteux, voire même il y a perdu sa femme, son destin, sa carrière, son bonheur, mais il est finalement placé comme une victime. Je trouve que c'est également intéressant de se dire dans quelle mesure ce bonhomme-là, il n'a pas trouvé un moment ou l'un autre confortable que l'État décide pour lui. Est-ce qu'il n'était pas dans une démarche un peu messianique, un moment de sacrifice ? Est-ce que, enfin bon, c'est le rapport aussi de bourreau à victime, c'est très très ambigu.
Charlotte, le mot oui. De la fin, parce que on est en retard.
Bah, le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire ? La Pierre a tout dit, c'est qu'en fait, je dirais que ça met en lumière complètement l'ambiguïté de l'homme, et l'ambiguïté, soit tu parlais de victime ou bourreau, effectivement, c'est aussi extrêmement confortable pour un peuple de ne pas avoir à penser, et c'est quelque chose qu'on voit aussi, donc qu'on voit dans les mondes de fantasy, mais qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit partout. Et quand vous avez quelqu'un, là je pense à la série 24 heures, qui torture, mais parce que sous prétexte de la bombe, ben non. Qu'est-ce qu'on peut se permettre effectivement au nom ? Alors du coup, on n'est plus du tout dans la lecture plaisir. Hein. On est dans qu'est-ce que la fantaisie permet de dire ? La fantaisie permet de faire une ouverture et une question sur tout, je dirais.
Bah, je crois que sur ces bonnes paroles de Charlotte Bousquet, nous allons nous séparer. Qui viennent plomber l'ambiance.
Désolé.
Terriblement. Oui.
C'est mon côté dark.
Voilà. Et donc, je voudrais aussi que non seulement nous remercions les auteurs de cette table ronde, mais aussi Sylvie Miller qui a fait la traduction pour Christine Cachor, et puis Hélène qui vraiment a été adorable parce que, comme vous avez vu, on essuyait les plâtres et on s'est aperçu qu'il n'y avait personne pour venir traduire pour Kay Meyer. Et Hélène s'est proposée spontanément à ma demande et pour assurer très très gentiment une traduction de manière imprévue. Et elle a fait un excellent boulot. Donc merci à tous les six pour cette table ronde. Oui, et naturellement, bah, pour les questions que nous n'avons pas le temps de poser, vous pouvez les poser aux auteurs qui vont maintenant être en dédicace dans la bulle du livre. Merci à tous.